Mais qu'est-ce qui se passe en Irak, en Syrie, dans toute cette région peuplée de barbares qui s'entre-déchirent ? On y perd son latin ou son arabe ou son marxisme. Pour s'y retrouver, nous avons interrogé plusieurs militants de diverses forces de la gauche radicale. Nous entendrons d'abord Olivier Dussard, militant du NPA, ensuite Saïd Bouamama, bien connu dans l'heure de le mettre, militant à la coordination communiste, puis Vincent Magnier, lui à lutte ouvrière. Nous les avons interrogés à différents moments, à différents endroits, mais avec les mêmes questions.
Ce qui se passe dans la région, il y a deux choses. Le premier élément, c'est qu'il y a un affaiblissement de l'impérialisme américain qui est extrêmement important depuis la deuxième guerre du Golfe et depuis l'occupation irakienne de l'Irak qui a tourné à la catastrophe pour lui. Ensuite, s'est produit le mouvement en 2011 du mouvement révolutionnaire arabe qui se poursuit donc avec des phases de réaction, de renouveau révolutionnaire. On a vu cette année en Irak comme au Liban des mouvements sociaux extrêmement importants qui s'exprimaient sur des bases sociales qui dépassaient les critères de confession et qui sont extrêmement prometteurs. Donc on voit un mouvement qui est extrêmement divers en fait et qui est en butte à deux obstacles en fait. D'une part deux obstacles réactionnaires, d'une part l'impérialisme américain, européen et russe, et puis par ailleurs la réponse réactionnaire qui est donné à cet impérialisme et qui s'exprime par le fondamentalisme musulman.
C'était Olivier Dussard du NPA, mais qu'en pense Saïd Bouamama ?
Alors, ma lecture des événements, c'est que pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter à la disparition des équilibres bipolaires issus de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la disparition de l'URSS et des pays de l'Est, qui faisait contrepoids aux États-Unis et à l'Europe, et qui avait un double effet. Et cela, indépendamment de l'analyse qu'on peut porter sur l'URSS ou sur les pays de l'Est, on peut considérer que c'était un modèle, ou on peut considérer que c'était aussi désastreux qu'ailleurs. N'empêche que sur le plan international, ça crée un équilibre bipolaire, avec d'une part sur les pays riches, on va dire les pays de l'Europe occidentale, le fait qu'ils faisaient extrêmement attention à leur politique de dérégulation par peur du développement des contestations qui pourraient être récupérées par l'autre bloc. Et sur le plan des pays du Sud, il y avait une attention particulière aussi à ce que les pays du Sud ne basculent pas dans la sphère pro-soviétique, pour le dire rapidement. Avec la disparition de ces équilibres, le système capitaliste peut se retrouver quasiment dans son modèle pur. Son modèle pur, c'est-à-dire la concurrence sans limite, d'où l'émergence des théories monétaristes et des politiques d'un Reagan ou d'une Thatcher, qui après vont devenir le modèle. Ce que l'on appelle aujourd'hui mondialisation, qui est trop souvent décrit comme étant simplement une nouvelle ère technique, avec le développement des nouvelles technologies, etc., est en fait l'ouverture du monde à une concurrence pure, une concurrence totale, une concurrence complète, avec des conséquences très précises. Première conséquence, la paupérisation et la précarisation dans le monde entier, puisque c'est les mêmes logiques qui vont amener à la restriction des budgets sociaux, à des choix ultralibéraux, etc., que ce soit dans le Sud ou que ce soit ici en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a des points similaires entre ce qu'on a dit à la Grèce et ce qu'on disait aux pays du Sud, aux pays pauvres du Sud, dans les années 70 et 80, c'est les mêmes logiques. Seconde conséquence, une augmentation de la concurrence entre toutes les puissances. C'est-à-dire chacun est aujourd'hui confronté à qui va contrôler le pétrole, qui va contrôler l'uranium, qui va contrôler les sources de matières premières, beaucoup plus que par le passé. Et ça veut dire le retour de guerre. Le retour de guerre parce que il y a des régions géostratégiques, soit en fonction de leur richesse, soit en fonction de leur situation géographique, qui sont ceux que les puissances qui les contrôlent sont les puissances qui contrôlent les routes du pétrole, l'accès aux matières premières, etc. Et pour cela, donc du coup, ces nouvelles guerres coloniales, elles supposent de nouvelles justifications. Et ces nouvelles justifications, ça va être, bien entendu, on ne peut pas expliquer une guerre pour le pétrole, sinon les opinions publiques ne marchent pas. On ne va pas expliquer les guerres pour contrôler une région géostratégique. Et donc, il faut trouver des causes légitimes qui permettent de justifier les interventions. La preuve, en France, ça marche, puisqu'on est engagé dans au moins 4 guerres et il n'y a pas de mouvement anti-guerre, etc. Ces causes, ben, ça va être quoi? Ben, ces causes, depuis qu'aux États-Unis, ça a été théorisé sous le nom de choc des civilisations, ça va être l'idée que ça n'est plus les intérêts qui guident le monde, ça n'est plus l'argent et le profit qui guident le monde, c'est des conflits entre civilisations, et en particulier avec la civilisation musulmane. Ça, ça a l'avantage de pouvoir justifier des interventions dans la partie du globe, dans les deux parties du globe dans lesquelles se situe l'essentiel des richesses, c'est-à-dire le Moyen-Orient, et l'idée que on serait face à une civilisation musulmane qui pose problème permet d'intervenir Syrie, Irak, Afghanistan, etc. Et l'Afrique. L'Afrique, alors, voilà pour moi ce qui explique la déstabilisation de, et d'Afrique et du Moyen-Orient.
Même question à Vincent Magnier de Lutte Ouvrière. Que se passe-t-il dans la région ?
Alors, dans toute la région, nous, on a tendance à regarder les choses de manière globale. On peut parfois regarder tel ou tel événement. Bon, il y a ici une bataille, ici un changement dans les rapports de force. Bon, ça nous intéresse, bien sûr. Mais pour bien comprendre ce qui se passe dans cette région, en fait, il faut remonter à l'histoire de cette région. Alors, on peut le prendre par plein de morceaux, hein. Il y a un grand nombre de problématiques, mais quand même, pour nous, la problématique fondamentale, ce qui est à la source de toute la violence, de tous les problèmes, de toutes les difficultés de cette région, eh bien, c'est d'abord l'impérialisme, depuis un siècle, hein, pour le pétrole, bien sûr, hein, les différents impérialismes qui sont intervenus dans ces régions, soit en renversant des régimes. Je pense au régime d'un démocrate progressiste qui n'avait rien de révolutionnaire, mais comme Mossadegh en Iran, hein, ça remonte bien sûr, mais et puis toute une série d'interventions plus discrètes parfois, des appuis diplomatiques, financiers, le soutien bien sûr à l'État d'Israël qui, même s'il n'intervient pas directement dans la guerre actuelle, il est toujours aux avant-postes comme gendarme au Moyen-Orient.
Israël n'intervient pas dans la région directement.
Alors, moi personnellement, je suis pas un expert militaire. Il est possible que ici ou là, les services secrets israéliens aient une intervention. Faudrait être naïf pour penser le contraire. Mais enfin. Il y a bien d'autres services secrets de pays capitalistes qui interviennent dans cette région. Les services secrets français, américains sont présents depuis bien longtemps, encore plus depuis la guerre, mais de toute façon, ils n'ont jamais cessé d'être présents. Donc, nous, ce qu'on pense fondamentalement, c'est que les impérialistes français, anglais d'abord, puis américains par la suite, eh bien, ils ont divisé pour régner dans cette région. Alors, parfois, en soutenant des régimes qui étaient directement à leur botte, ou des alliés qui les servent directement, hein, comme Israël ou l'Arabie Saoudite, parfois avec des régimes qui sont peut-être qui ont pris un peu de champ par rapport à l'impérialisme, qui parfois ont joué un peu d'écoute pour lui imposer des choses. Je pense aux partis nationalistes arabes comme les partis basses d'Irak et de Syrie, qui ont essayé de négocier de manière un peu forte quand même, des fois, avec parfois même un certain courage, par rapport à ce que voulait, aux miettes que voulait leur laisser l'impérialisme. Mais en fin de compte, tous ces régimes, tous ces États, il n'y en a aucun qui servait les populations, et même quand ils ont un peu résisté à l'impérialisme, ils n'ont jamais remis en cause fondamentalement la domination impérialiste dans cette zone. Ça n'a jamais été leur programme.
Alors, peut-on considérer qu'il y a un plan délibéré pour déstabiliser la région ?
Après, cela ne veut pas dire que c'est l'histoire d'un grand complot pensé par en haut, avec invention de groupes comme Daesh ou invention de groupes... Non, il n'y a eu aucune invention de Daesh. La pauvreté, l'absence d'avenir... La déstructuration des sociétés civiles, l'absence de minimum vital, etc., suffit à faire émerger des groupes sectaires. Mais l'ampleur que ça prend et l'instrumentalisation de ces groupes par un certain nombre de puissances permet de justifier à tel endroit une guerre, à tel endroit un coup d'État, à tel endroit une intervention. Donc l'infrastructure économique et sa fragilisation expliquent l'émergence d'un certain nombre de dérives sectaires, et l'instrumentalisation de ces dérives permet de justifier des guerres.
Moi, je pense pas qu'on puisse se poser le problème comme ça, parce que les printemps arabes, les puissances impérialistes, les États-Unis en particulier, les ont pas voulu. C'est les peuples bon, qui se sont révoltés, alors d'abord en Tunisie, puis il y a eu une certaine contagion. Donc les aspirations démocratiques et aussi sociales d'ailleurs de ces peuples, bon, il y a bien sûr des forces politiques hein, qui ont joué leur carte là-dedans, mais il y a une part de spontanéité, parce que l'oppression finit toujours par engendrer la révolte. Donc ça... À ce niveau-là, nous, on ne pense pas qu'il y a eu un plan machiavélique de l'impérialisme pour faire évoluer les choses dans cette région. Ils avaient des serviteurs qui les servaient très bien. Des régimes, à une époque, le régime de Saddam Hussein leur allait très bien. Après, il ne leur allait plus. Ils l'ont brisé. Mais tous ces régimes qui, encore une fois, sont pas des régimes au service de la population. Au final, ils sont quand même prêts, si l'impérialisme accepte de les laisser rentrer dans le rang, ben ils sont prêts à rentrer dans le rang. Aujourd'hui, il est certain qu'ils sont en train de négocier secrètement toutes les possibilités, tous les scénarios possibles.
Je me souviens de cette conférence d'Alain Badiou, diffusé d'abord par Là-bas si j'y suis sur là-bas.org, et qu'on a déjà entendu en partie dans l'heure de le mettre, il semblait dire que l'impérialisme, le néocolonialisme, atteignait une de ses nouvelles étapes, ce qu'il appelle le zonage, c'est-à-dire la création de zones sans État, soumises à l'anarchie la plus complète, mais dans lesquelles des bandes mafieuses continuent de faire des affaires.
Ce que je pense... c'est que ce qui apparaît petit à petit, c'est l'idée que plutôt que de prendre en charge la tâche pénible de constituer des États sous tutelle de la métropole, ou encore plus des États directement métropolitains, une possibilité, c'est tout simplement de détruire les États. Et ça, c'est une possibilité du capitalisme mondialisé dans sa désétatisation progressive, qui est que, au fond, on peut créer dans une géographie de zones franches, anarchiques, où il n'y a plus d'État, où par conséquent on n'a plus à discuter avec ce monstre redoutable qui est toujours un État, même s'il est faible, etc., le risque permanent que l'État vous préfère un autre client, etc., mais où tout le monde va opérer dans des zones franches ouvertes, où, d'une certaine manière, il y a une sorte de demi-anarchie, des bandes armées contrôlées ou incontrôlables, mais où les affaires peuvent continuer. Et en vérité, il faut quand même bien se rendre compte que, contrairement à ce qui se dit, à ce qui se raconte, les firmes, leurs représentants, les agents généraux du capital partout, peuvent parfaitement négocier avec des bandes armées, à certains égards, plus facilement même qu'avec des États constitués. Donc il n'est pas vrai que l'anarchie étatique et les cruautés inimaginables qui vont avec, etc., soient nécessairement en contradiction formelle avec la structure du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde avait pu constater que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle d'écraser Daesh, mais... en réalité, jusqu'à présent, rien de réellement sérieux n'a été fait, excepté par les Kurdes, qui, eux, sont sur place et ont des intérêts propres dans la région. Tout le monde se dit, oh là là, envoyer 300 000 hommes là-bas, c'est pas... peut-être qu'il vaut mieux continuer à limiter la chose, plus ou moins, et puis à traiter, à la ramener à son régime de traitement des affaires. Après tout, Daesh, ils vendent du pétrole. C'est une entreprise commerciale compétente. Ils vendent du pétrole, ils vendent des œuvres d'art, ils vendent beaucoup de coton, d'une grande puissance productrice de coton, Daesh. Donc, ils vendent beaucoup de choses à tout le monde. Parce que pour vendre quelque chose, il faut être deux. C'est pas Daesh qui achète son coton. Alors, tout cela pour dire que j'ai proposé le mot de zonage. J'ai proposé de dire que à l'impérialisme qui constituait des pseudo-pays découpés n'importe comment, mais qui avait le statut de pays sous la tutelle de la métropole, on pouvait constituer, en Afrique, au Moyen-Orient, dans certaines zones d'Asie, on pouvait constituer des zones qui sont en réalité des zones de pillage non étatisées et dans lesquelles, sans doute, il faudra intervenir militairement de façon régulière, mais sans avoir en charge véritablement la gestion intégrale et lourde d'États coloniaux. On ne peut pas ignorer cette hypothèse si on se demande, par exemple, quel était l'intérêt véritable de l'expédition en Libye. On a détruit un État complètement, on a créé une zone d'anarchie dont tout le monde se plaint ou feint de se plaindre, mais après tout, les Américains ont fait la même chose en Irak, et donc dans des zones considérables, la pratique a été de détruire les États pour ne mettre à leur place pratiquement presque rien, c'est-à-dire des accords fragiles entre minorités, religions, là on a remplacé les sunnites par des chiites, etc. Mais tout ça, ce sont des opérations non étatiques au sens sérieux du terme, c'est absolument évident.
De ce point de vue, quel rôle joue Bachar el-Assad dans la région? Qui est Bachar el-Assad? C'est Olivier Dussart du NPA qui répond d'abord, puis Saïd Bouamama.
Bachar el-Assad, c'est avant tout le tyran et l'assassin de son peuple. Il faut se souvenir que Bachar el-Assad est le successeur de son père, Hafez el-Assad, donc qui avait pris le pouvoir en 1970 et qui avait entamé tout un processus de libéralisation de l'économie et de création d'un régime népotiste, et s'appuyant sur des bases confessionnelles, c'est-à-dire qu'il s'appuyait donc sur un appareil d'État et sur une structure militaire dominée par des membres de la communauté alaouite et avec des rapports clientélistes qu'il avait établis avec eux, et à côté de ça un enrichissement absolument énorme d'une nomenclature qui était en partie d'ailleurs pour une partie d'entre elles liée familialement avec le clan Assad. On peut penser notamment à ce fameux cousin de Bachar el-Assad qui en 2011 possédait 60% de la richesse de la Syrie, et donc on voit en fait les éléments qui ont conduit le peuple syrien à la révolte. Donc Bachar el-Assad, c'est un assassin, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce à quoi on peut assister, c'est au fait que les puissances impérialistes qui interviennent dans la région, que ce soit russes, américaines, européennes, mais aussi les impérialistes secondaires, Turquie, Arabie Saoudite et Qatar, essaie en fait de stabiliser absolument cette région, donc d'éviter la poursuite du mouvement révolutionnaire, et donc pendant très longtemps en fait ces impérialistes ont tablé sur les dirigeants en place. C'est pour ça que Assad était bien vu, bien évidemment, des Russes, mais aussi pas mal vu finalement, quoi qu'il en dise, des Américains et des Européens avant le début de la révolution arabe. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un rapprochement qui est en train de se faire entre Russes, Européens et Américains, avec un certain nombre de nuances qui correspondent à leurs intérêts divergents, bien sûr, mais autour du fait que l'ennemi principal, c'est le désordre de leur point de vue en Irak, et en Syrie, qui va s'exprimer à la fois par le djihadisme de Daesh, mais qui s'exprime également par le mouvement révolutionnaire en cours. Et ils veulent absolument trouver une situation, une solution de stabilité, donc, du côté russe, ça passe bien sûr par une alliance totale avec Bachar el-Assad. Du côté américain et européen, ça dépend des années, ça dépend des moments. Mais on voit qu'il y a un glissement et qu'on est passé d'une période plutôt 2012 ou 2013 où en fait ils essayaient de trouver une solution négociée avec Bachar el-Assad permettant le maintien de l'État syrien et en fait derrière du système mis en place par Assad. Mais sans Assad, Assad aurait une retraite dorée quelque part. Mais on voit aujourd'hui que finalement, cette question du départ d'Assad pour derrière maintenir le régime d'Assad devient finalement une précaution ou un préliminaire qui n'en est plus pour les Européens et les Américains. Le garder semble quand même l'option qui s'impose le plus, mais derrière, ce qui est fondamental, c'est qu'on a une alliance pour empêcher l'expression du mouvement révolutionnaire arabe qui existe depuis 2011.
Bachar al-Assad est à la fois le résultat du système global mondial d'aujourd'hui et à la fois aujourd'hui un facteur de résistance par rapport au chaos. Alors je vais m'expliquer. Pendant longtemps, mais un peu comme Kadhafi et comme d'autres, pendant longtemps, il a été un des éléments de jeu des superpuissances dans la région. Il a effectivement réprimé son peuple à d'autres moments, il a fait preuve d'une violence très forte sur les Kurdes, etc. Et ça, c'est le premier aspect de Bachar al-Assad. Le second aspect de Bachar al-Assad, c'est que, voyant ce qui s'est passé en Irak, voyant ce qui s'est passé en Afghanistan, il a eu la hantise de la balkanisation de la Syrie, comme on a balkanisé l'Irak, comme on a balkanisé l'Afghanistan, etc. Et il s'est retrouvé avec ce mouvement d'opposition dans lequel il y avait de tout. Dans lequel il y avait de tout, et y compris, dès le début, il y avait des groupes fascisants, la Daesh, mais ça s'appelait pas Daesh à l'époque, mais il y avait déjà cela. Et voyant aussi qu'un certain nombre de puissances occidentales préféraient le chaos intégriste à une révolution populaire ou même à la stabilité du régime. Et il a fini par coaguler autour de lui tous ceux qui, y compris certains qui s'opposaient à lui auparavant, coaguler autour de lui tous ceux qui s'opposent à la balkanisation de la Syrie. C'est pour cela que les chrétiens en Syrie soutiennent Bachar al-Assad. C'est pour cela que d'anciens opposants soutiennent Bachar al-Assad. En réalité, en Syrie aujourd'hui, on est passé de l'enjeu Bachar dictateur ou Bachar assassin à l'enjeu n'est-on pas en train de découper la Syrie. Et ça change toutes les alliances à l'interne, etc. Et c'est pas contradictoire d'avoir critiqué Bachar hier et aujourd'hui de dire si Bachar s'en va, quelle est la réalité syrienne aujourd'hui. Ça sera une réalité à l'Afghan, en réalité.
C'était Saïd Ouamama, sociologue, mais aussi militant de la coordination communiste. Vous avez aussi entendu Olivier Dussard du NPA, nouveau parti anticapitaliste, et Vincent Magnier de LO, lutte ouvrière. Il y avait aussi Alain Badiou de où déjà ?